Bonjour tout le monde et bienvenue à l'édition du Couscous Piri Piri, une édition 100% hors ligne, on n'est pas en direct, et 100% Patreon. Ce spécial épisode est seulement diffusé sur Patreon en mode Early Access, donc vous allez voir ça peut-être quelques jours plus tard si vous êtes un Patreon, mais si vous êtes un patron du Cannes Football Club, bienvenue à cet épisode spécial avec Nilton évidemment comme d'habitude, et notre invité pour ce spécial, Monsieur Reda Gouram. Salut Reda.
Salut à vous deux. Comment
Salut
ça va?
Ça va, Nilton, ça va bien?
Moi, je suis stressé pour deux choses. Mon premier niveau de stress, c'est quand ta musique va finir. Tu sais, je sais jamais. Ça va être là. Ça, c'est un stress. Et là, le deuxième stress, c'est le sujet qui s'en vient.
Bien. Yeah. Donc, ouais. Donc, on va arriver au sujet, messieurs. Un spécial CCPP. Comme vous avez dit, vous voulez voir cet épisode et l'écouter. patreon.com/football club. On va prendre le public plus tard, mais pas le même jour, quelques jours plus tard, une semaine, deux mois, je vais décider. Hein, ça me tente. Ça me tente. Moi, je suis là pour l'argent. Moi. Je suis là pour l'argent.
Oh, bon. Contribuer pour couper ses cheveux.
Si on était là pour l'argent, je pense que.
Est-ce qu'il y a un temps que tu attends avant de couper tes cheveux ou tu.
Le vaccin, lui, tant qu'il n'y a pas le vaccin, il m'a dit pas de vaccin, ça continue.
Mais ce week-end, je pense que je vais faire le move.
Oh, sérieux? Non, ça, est-ce que ça, une coupe en tête ou?
Ça, c'est Patreon stuff, ça.
Patreon only. Il faut pas le tweeter, il faut rien faire.
Wow. Okay? Non, je suis confidentiel.
Je vois les Patreon qui disent « Ouais, je t'en ai plus d'argent, 100 dollars, 100 dollars.
Un autre mois, 100 dollars.
Non, mais je pense que ce week-end, je vais le faire. Là. C'est pas gérable. Ben, vous allez voir, là.
Non. Oh, God.
Wow. Tu devrais faire peut-être un demander l'avis des gens pour une coupe que tu devrais faire.
Ouais, un vote.
Un vote pour, ouais, donner un quatre choix de coupe et les gens votent sur leur préférée.
Ah, je veux avoir le dernier choix. Il faut que ça soit un autre mois.
Un autre mois,
okay. Non, encore un autre mois.
Ah, j'ai pas le temps pour ça. Ce week-end, là, c'est fini. Là. Le ventre de ça, ventre de sauvage. Donc, c'est ça. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à la Frangie Malte qui nous supporte toujours au CCPP et au Cannes Football Club. Merci encore. Et hey, y a un show qui a recommencé. Le Cannes Football Club, vous le voyez en vidéo là. Pop. Mm-hmm. Y a Sid, y a Nilton, y a Julien, y a Reg, y a moi. Parle foot, impact, foot international, tout, sur patreon.com/football club pour avoir accès avant tout le monde. Je pense qu'on peut te le faire, Nilton. Là, Reda, il a vu les tweets, il a dit « Ah, je retweeté, je vais être in, moi.
» C'est trop tranquille. Boum, le feu.
Il nous sort. Bon, Reda, c'est un trop de 4 minutes, là. On se détend, on relaxe, moi, je bois ma tisane. Hein, j'ai un gingembre et citron. Ça, c'était pour les podcasters avec l'audio. Bon. Donc voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Regarde, il y a un truc qui t'est arrivé. Bon, on va le partager. On va lire un tweet. Reda, je veux que tu lises ton tweet. Ok? Ah, je vais le mettre là. Puis lis pour nous, avec le ton, on veut tout. Lis-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Avec le ton, avec les émotions.
Ah ouais.
C'est bien d'entendre Olivier Renard demander qu'on arrête de constamment trouver des excuses pour les résultats de l'impact. Ce serait bien que certains journalistes suivent avec le même état d'esprit en étant plus réalistes dans l'analyse et pas juste optimistes après chaque défaite.
Boom. Click. Enter.
Oh mon Dieu. Bon, Reda, la question qui tue, la seule question qu'on doit poser, qu'est-ce qui se passe, Roya? Talk to us.
En fait, c'est que dans les derniers matchs, évidemment, comme tout le monde a pu le voir, il y a eu des défaites, il y a eu une victoire contre Columbus qui était une bonne chose, mais il y a eu défaite après défaite. Et à chaque fois, moi, il y a une chose qui m'a toujours irrité, c'est que quand, après chaque défaite, on essaie de trouver les points positifs, on essaie de trouver les victoires morales. Il nous reste au moins 8 matchs. Ah, maintenant, il nous reste 7 matchs. Ah, maintenant,
les
il
matchs
nous reste
en main, les fameux matchs en main. Là. Tu te souviens?
Exactement.
Regarde le classement.
Ouais, mais là, on le regarde moins. Là.
Exactement. Puis, moi, le but avec ça, ce n'est pas nécessairement d'être critique ou d'être négatif envers qui que ce soit. Ou j'avais pas quelqu'un que je pointais nécessairement, mais c'était plus un état d'esprit que je voyais beaucoup et qui m'irritait tout simplement. Quand on parle... Là, on parle de sport professionnel, on parle du haut niveau. Puis ce qui est drôle, c'est que le dernier match, ce tweet-là, je voulais le faire après le match. mais pour X, Y raison, j'arrivais pas à tweeter. Je sais pas pourquoi ça me laissait pas. Ça me disait, ben, comme quoi Twitter ne me laissait pas.
C'est écrit l'impact de Montréal have suspended your account.
Je vous jure, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. J'avais en tête de d'écrire comme quoi, en gros, il y en a marre de toujours essayer d'être optimiste, défaite après défaite. Puis le lendemain, ben, je vois la conférence d'Olivier Renard. Puis j'ai écouté ça et je me suis dit, c'est exactement ça. Les joueurs ils sont payés pour performer sur le terrain. Si tu as choisi de faire ce métier-là, c'est que tu es payé pour performer et tu n'as pas trouvé d'excuses. Évidemment, la pandémie, elle n'aide pas. C'est compliqué de voyager, c'est compliqué d'être à l'extérieur. La majorité des joueurs ont une femme, des enfants, peu importe. C'est extrêmement compliqué dans ces conditions-là. Mais Toronto est dans la même situation. Toutes les équipes sont dans la même situation. Et dans le sport de haut niveau, une mentalité comme ça, ça n'aide pas et c'est pas bon ni pour les supporters, ni pour le club, ni pour les journalistes, ni pour les joueurs, parce que c'est pas une mentalité de champion de toujours trouver des excuses sur oh mais c'était pas si pire que ça, on a perdu mais c'était pas si pire que ça, il y avait quand même des points. J'aime pas cette mentalité là.
Est-ce que tu inclus ou tu exclus les points positifs sur certains joueurs ou certaines actions? Est-ce que ça inclut dans ton rant ou tu les exclus? Genre, oui, on peut dire des trucs positifs sur Wanyama a bien joué malgré la défaite. Parce que
bien tout ça, c'est correct. Moi, je suis plus dans l'objectivité. Évidemment, il y a eu des points positifs dans le match. Exemple, Sidic, c'est un joueur qui a été vraiment performant les deux derniers matchs. J'étais content de voir qu'il a pu marquer, qu'il a été important dans le jeu. Il y a eu des points positifs. Mais par contre, de voir que la situation, c'est toujours la même chose, défaite après défaite. Et surtout que quand on regarde comment les joueurs se comportent sur le terrain, comment certains joueurs se comportent sur le terrain, on ne peut pas toujours être optimiste. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on explique qu'est-ce qui ne va pas. Il faut qu'on parle être dans le concret, tout simplement. Puis quand je dis ça, ce n'est pas non plus de critiquer constamment. Non, je suis pas non plus pour les gens qui font que critiquer. Puis je ne suis pas non plus pour les gens qui font qu'être optimiste et toujours dire oui, mais ça va, mais c'est pas si pire. Non, il faut trouver un juste milieu et juste être dans le vrai et être objectif dans notre façon d'analyser ce qui se passe, tout simplement.
Petit début d'explication, peut-être. En conférence de presse, Thierry Henry, là, il contrôle pas mal le message. Là, tu sais, sa personnalité est très importante. Il est intimidant. Il y a pas, même si on n'est pas dans un pays de foot, Thierry Henry, ça impose le respect. Quand tu y vas avec des questions qui sont peut-être plus ou moins bien ajustées ou en tout cas un petit peu off the track, il te le fait dire. Et un truc qu'il fait régulièrement, je pense qu'il le fait à chaque conférence de presse, c'est insister sur le positif. Le mot positif revient de sa bouche à toutes les conférences de presse. Ouais. Quand on gagne un match, la première question qui avait été posée après la victoire contre le Crew, ça avait été sur la façon qu'ils ont pris un but. Et déjà, il a dit, comment vous faites pour pas être positif après une victoire? Tu sais? Donc, forcément, les journalistes, ça devient un peu compliqué. Match après match, c'est à peu près le même genre de défaite. Hein. C'est à peu près la même explication pour chaque défaite. À un moment donné, tu te répètes, tu as comme le goût de dire d'autres choses, puis toi-même, tu dois être un peu tanné d'être négatif à chaque fois, et tu as en tête le message que Thierry Henry t'envoie. Penses-tu que Thierry Henry est en train de réussir la manipulation de la communication autour de ce club-là?
Par rapport à ce que je ressens quand je vois les conférences de presse et surtout sa façon de répondre, je pense qu'il y a pas mal de journalistes qui peuvent être agacés par moment par sa manière de répondre. Évidemment, c'est un entraîneur, il va vouloir aller plus vers le positif vu qu'on l'évalue sur son travail. Pour avoir un aperçu un peu plus au niveau, je pense que les circonstances sont difficiles avec la pandémie, avec toutes sortes de choses. Et quand une équipe doit commencer un nouveau cycle, ça prend, je l'ai dit dans un des tweets, ça prend à peu près 1 à 3 ans. Donc, quand Thierry Henry a commencé, il s'est retrouvé avec pas mal de joueurs sous contrat que lui n'a pas choisi. Olivier Renard, la même chose, ils sont dans le même bateau. Puis je pense que cette année, pas seulement à cause de la pandémie, mais vraiment à cause de avec quoi ils se sont retrouvés comme joueurs, moi, je peux pas vraiment évaluer son travail en termes de résultats, mais je peux évaluer son travail en termes de comment l'équipe se comporte. En termes de comment l'équipe se comporte, et Olivier Renard, dans les moves qu'il a fait, moi, je pense que je n'ai jamais été aussi optimiste par rapport au futur de l'Impact que je le suis aujourd'hui, principalement à cause d'Olivier Renard. Parce que les choix qu'il a fait jusqu'à maintenant, les recrutements qu'il a fait jusqu'à maintenant, font beaucoup de sens pour la suite. Et donc, Thierry Henry, sur le terrain, évidemment, j'ai une idée de comment il veut jouer sur le terrain. Mais malheureusement, il n'a pas ces joueurs-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'il pousse les joueurs à jouer de cette manière-là, mais il n'a pas les joueurs qu'il faut. Mais on ne peut pas vraiment l'en vouloir parce qu'il a 12 blessés. Il y a un Tider qui vient de quitter. Et malgré ça, il continue quand même de jouer dans sa même philosophie. Mais personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il a les joueurs qu'il faut. Puis j'espère que l'année prochaine, avec du recrutement, puis peut-être il va y avoir des joueurs évidemment qui vont devoir quitter. Je pense qu'il va continuer avec la même philosophie. Et là, peut-être, on pourra commencer à vraiment l'évaluer parce qu'il s'est retrouvé avec 4-5 joueurs importants qu'il n'a pas nécessairement choisis. Et c'est ça. Moi, je pense que d'ici l'année prochaine, voire l'autre année, c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment devoir l'évaluer. Puis on va devoir être extrêmement exigeant sur ce qu'on demande en termes de résultats aussi. Mais je pense dans sa communication avec le club, il va évidemment comprendre un peu comment les journalistes fonctionnent. Mais je pense que c'est juste mon opinion, de sa manière de répondre, j'ai l'impression qu'il a une idée préconçue sur les journalistes ici. Peut-être qu'il sous-estime le niveau de connaissance des journalistes, ou peut-être qu'il surestime, je sais pas là, mais j'ai l'impression qu'il sous-estime le niveau de connaissance et c'est pour ça qu'il a peut-être des réponses un peu.
Mais il a clairement un côté grincheux, quelque chose qu'on. Même en tant que joueur, il y avait un côté un peu pas grincheux, peut-être pas le bon mot, mais vous voyez, je veux dire, il y a un peu un sort de je m'en foutisme ou genre j'ai pas que ça à faire, mais je vais le faire quand même parce que c'est mon travail. Au moins, il est professionnel plus que le minimum. Mais avec Henri, c'est vrai qu'il y a un lien direct avec la façon dont il communique et ce qu'il veut faire sur le terrain. Dans le sens où il est très dans l'efficacité. Il veut être efficient et efficace. Il n'est pas nécessairement là pour faire de la belle prose et dire. Et surtout. Je pense qu'à l'instar de Rémy Garde, que lui avait peut-être, je ne sais pas s'il avait des meilleures équipes, ou des meilleurs, peut-être probablement des meilleurs joueurs à sa disposition, entre guillemets, lui, Rémy Garde, était dans l'obligation de gagner à chaque fois. Lui, c'est ça, son discours, on gagne les 3 points, ce qui est normal, c'est que les coachs sont quasiment tous comme ça. Thierry Henry, avec la pandémie, tant mieux, on en profite, on n'a pas la pression. Lui dit, c'est une ligue fermée, il n'y a pas de relégation, on construit. Comme tu as dit, ok, ces joueurs-là, je ne les ai pas choisis. Peut-être j'ai donné mon tampon d'approbation sur certains pour qu'ils restent. Mais moi, je prends mon temps, je vais construire quelque chose. Il y a un contrat de 2 ans, il s'en va nulle part. Puis on espère qu'il reste là plus longtemps, parce que si la pandémie continue, personne ne va aller en Europe, là, coach ou entraîneur, coach ou joueur, tout de suite. Mais c'est ça, il y a une sorte de lien par rapport à Samy, il y a son personnage. Il y a des questions qui sont très bonnes, où sa réaction n'est pas proportionnelle. Et c'est ça un peu l'image qu'il donne, mais c'est au moins on sait que c'est Henry, on s'y attendait un peu, mais pas tant que ça. C'est peut-être la routine, peut-être à Monaco, je ne me rappelle plus, je pense qu'il doit faire beaucoup de conférences de presse, mais je pense que c'est aussi 3 matchs par semaine, là, 2 matchs par semaine, ça en fait des conférences de presse d'avant-match, d'après-match.
Il doit en faire à peu près 4 ou 5 par semaine.
Non seulement à cause de la réalité MLS, mais en plus l'horaire, le calendrier est vraiment ridicule. Donc à un moment, j'ai l'impression qu'il parle tous les jours, j'en ai marre de l'entendre.
Tout ce que tu as dit, c'est évidemment des raisons qui font que c'est comme ça, mais je pense que pour moi, là, une des raisons principales que je vois dans ça, c'est que, tu sais, quand tu as joué au foot et que tu changes de carrière, tu changes de position dans ton travail et que tu n'es plus un joueur de soccer sur le terrain, surtout à son niveau, il a été adulé, ça a été un grand joueur dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, évidemment, c'est ça qui l'a aidé à réussir. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement difficile de switcher ton mindset pour être plus orienté vers les joueurs et moins vers toi. Donc je pense que c'est aussi dû à ça, et il n'a pas encore beaucoup d'années d'expérience en tant qu'entraîneur. Et même, je pense, tout à l'heure où il a dit qu'une des choses qu'il a appris dans les derniers mois, ça a été le côté humain. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il a encore un peu de joueur en lui, un peu la mentalité de joueur en lui qui est d'être un peu confiant, un peu arrogant, un peu jouer avec les mots, un peu se voir un peu plus haut, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Puis ça fait partie, je pense, de son parcours d'apprendre à se débarrasser tranquillement de cette personnalité de joueur et de se voir plus comme un entraîneur et de voir comment lui peut permettre aux autres de briller plutôt que de lui être la personne. Tu vois, et il y a beaucoup de joueurs, surtout à ce niveau-là, qui ont de la difficulté à se débarrasser de cette personnalité-là de joueurs, tout simplement.
Tu vois, souvent, on entend là, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, là, ils utilisent la carrière de Thierry Henry pour dire à quel point c'est un idole, à quel point ils peuvent apprendre de Thierry Henry. Tu sais, Kyoto l'a dit, là, il a probablement accepté ce genre de critique-là qu'il n'aurait pas accepté d'un Rémy Garde l'année d'avant parce qu'il respecte, parce que quand Thierry Henry dit « il faut faire ça, ça, ça sur un terrain », tu crois. On voit aussi que offensivement, c'est intéressant ce que Népak fait. Tu sais, ils jouent au ballon, ils essaient, ils ne réussissent pas, mais on voit des choses, on voit des joueurs évoluer. Broguillard, Sedich, même Piette, on voit là, tranquillement, il prend cette confiance-là. Je ne vais pas dire qu'il va devenir tout d'un coup un 10, là, c'est pas ça, mais on voit son jeu évoluer, on voit les attaquants évoluer, tout ça. Fine. Est-ce que Thierry Henry a ce qu'il faut pour régler la défensive d'une équipe?
Ben, je pense à court terme, peut-être pas, parce qu'il n'a jamais joué à ce rôle-là. Puis c'est là où le rôle peut-être d'un assistant qui peut amener ce côté-là tactique au niveau de la défense, c'est peut-être de ça qu'il aurait besoin, mais je sais pas, parce que tout ce que je sais, c'est que basé sur les résultats qu'on a vus et les buts que l'équipe s'est pris, il y a eu des erreurs tactiques, mais il y a eu surtout des erreurs de concentration. Puis ça, ouais, c'est le côté mental.
Moi, je pense que c'est individuel, parce que tactiquement, à un moment, tu mets les mises en place, il y a des équipes qui font des belles actions, Philly, New England, il y avait des buts, genre c'était bien joué, il y a d'autres buts, genre c'était des cadeaux. À moi, tu ne peux rien faire. Mais des cadeaux, par exemple, en EPL, il se peut que Van Dijk te sauve les fesses. Il se peut que Van Dijk laisse le ballon passer, puis c'est que ça finit 7-2 à Aston Villa. Donc, tu sais, ça se paye cash de différentes façons. Mais c'est vrai. Oui, excusez-moi, j'ai interrompu là, Reda, là, mais oui,
c'est un équilibre. C'est un équilibre, et je pense que peut-être la pandémie ou la situation des joueurs de devoir. Ouais. Mais même à ça, ce n'est pas une excuse, parce que tu as 90 minutes pour être concentré. Ouais. Peut-être que les autres heures de ta journée, tu peux être, triste, fâché, peu importe. Ouais. Mais quand le
mais mauvais contrôle, commence, c'est un mauvais contrôle.
C'est un mauvais contrôle, puis des erreurs d'inattention, de concentration, ouais. Ça, c'est inacceptable, surtout à ce niveau-là. Puis surtout que souvent, ça a été des joueurs qui sont supposément importants, qui doivent faire la différence en défense.
Par exemple,
Camacho, c'est un joueur qui n'a aucune excuse de jouer comme il joue présentement. Il y a eu l'épisode des cartons, après ça, il y a eu les buts qu'il a encaissés. Je trouve que c'est juste
inacceptable à ce niveau-là. Pourquoi qu'aujourd'hui, on est étonné de Camacho?
Moi, je suis pas étonné parce que je pense après 5 matchs, à l'époque, les joueurs qui étaient là, je communiquais avec certains des joueurs, puis je leur disais
Inside.
Moi, je suis pas vraiment impressionné par ce joueur. J'aime pas ce que je vois parce que je vois pas d'assurance balle au pied, je vois pas de côté physique impressionnant dans les duels aériens. Je vois un joueur qui est correct techniquement et que à la relance, il est correct. C'est pas. Mais quand je vois le salaire, je me dis non, impossible, parce que...
On s'est dit la même chose avec Newton.
C'est tout à fait objectif.
Et puis pour Camacho, on lui a donné un an. On se dit, c'est quoi? Après 5 matchs, on avait des doutes, 3 matchs. On se dit, ok, on va laisser l'année parce que ça, il est nouveau, vient d'arriver, il s'est blessé. Ok, on va attendre. Mais à un moment, on s'est dit, ça fait 4 fois qu'on le dit cette année. Cabrera, il peut pas rejouer là parce que honnêtement, il y a pas de différence. Oui. Cabrera est peut-être moins cher et peut-être probablement plus efficace. Mm-hmm. Tant qu'avoir des cartons rouges pour un crampon, je préfère ça qu'un carton rouge pour une réaction 100%. Bête. Mais ça arrive, les réactions là, l'émotion.
Les réactions, ça arrive, mais il y a des joueurs qui sont. Quand tu analyses un peu le parcours du joueur depuis qu'il est ici, j'arrive pas à justifier le salaire, j'arrive pas à justifier l'importance qu'il a dans l'équipe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un contraste avec Luis Bill.
Mais là, on revient avec ce que tu as dit. Moi, ce qui m'énerve, là, c'est pas autant que des mauvais recrutements, il y en a, là, ça se peut. Là, on a eu une. Ça arrive. À l'Impact, ça arrive souvent. Là, Novilo arrive, Camacho arrive. Tous ces mauvais recrutements, Vergas, tout ça. Pourquoi les médias sont incapables de le dire quand ça arrive, mais seulement une fois qu'ils sont partis? Je veux dire tout de suite que Novilo prend de l'argent de Silva et donner ça à un gros point d'interrogation, pas par défaut lui dire « on va lui donner une chance, ça va être bon ». Non, par défaut, dire « qu'est-ce que vous venez de faire là ?» Pourquoi ne pas être critique dès le départ? Pourquoi Camacho, quand on voit 2-3 matchs où c'est correct, c'est Cabrera avec des caractéristiques différentes qui fait des bons coups, des mauvais coups, mais qui coûte 2 fois le salaire, dire tout de suite « boys, c'est pas bon ce que vous venez de faire là ». Même si en face de toi, il va avoir un certain mépris, puis ils vont dire « ouais, mais tu connais pas ça, le foot. » Non, go, critique tout de suite. Puis moi, quand j'ai vu ton tweet, je le voyais dans cette mentalité-là. C'est pourquoi on n'est pas sévère avec ce club.
Exactement.
Si on n'est pas sévère, après, il ne faut pas chialer sur des mauvais résultats. Si on aime avoir du à peu près, ben acceptons des matchs à peu près et un classement d'à peu près.
Et ce que dit Nilton, Reda, c'est que c'est moi, je pense que beaucoup de personnes, fans, certains médias, observateurs, ils ont un manque de perspective tellement gravissime que je me demande si peut-être certains le font exprès, parce que je ne peux pas croire que c'est naturel. Il y a un certain manque de perspective, je ne comprends pas. Et je lis des trucs, des tweets ou des articles ou des commentaires, et tout le monde a faim de médias, etc.
Et on peut aller vers Tider, là, où moi, je n'ai pas compris le phénomène anti-Tider de cette
fois. On va y arriver sur Tider. Mais il y a un manque de perspective qui est tellement grave que moi, je doutais, c'est peut-être moi qui ne connais rien au foot. Et moi, je ne suis pas un expert, mais je dis, mais peut-être moi, ça fait 8 ans que j'ai des conneries. C'est quand que j'ai douté avec Silva. Je dis, peut-être Silva était mauvais. J'ai l'impression que Silva était nul, mais Silva n'était pas si mauvais que ça. T'sais, moi, je le voyais galoper, je comprenais pas. Donc, et je commençais à douter de moi-même. Je me dis, ok, moi, je suis même devenu soft un peu. C'est-à-dire que je vais reculer un peu, je vais être moins tranchant. Et sauf que Novilo, on l'a vu direct là, on l'a vu même avant qu'il vienne, on avait mis un flag rouge là, il y a un truc qui cloche. Mais c'est ça ce que Nathan dit. Comme je suis un peu complaisant dans ma personnalité de temps en temps, je me dis ok, c'est peut-être moi, je vois la majorité, je veux faire un peu le mouton, quelque chose que je fais pas souvent, mais je dis ok, il y a un problème, c'est peut-être moi le problème. Et puis ce qui est frustrant en plus, après tous ces mois, ces années, on se dit mais pourquoi tout le monde se plaint, on parle qui du Real Madrid là, on parle de l'impact, on voit leur parcours. On ne peut pas s'attendre à mieux que ça. Mieux que ça, c'est Drogba et Piatti, mais c'est tout. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Excuse-moi, Reda.
Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui peut-être n'ont pas assez confiance en leur façon d'analyser le foot. Donc, ils se permettent pas de dire ce qu'ils pensent sur le joueur. Parce que peut-être qu'ils se disent, est-ce qu'il est mauvais? Moi, j'ai l'impression qu'il est mauvais, mais est-ce qu'il est vraiment mauvais? Personne ne dit qu'il est mauvais. Est-ce que je dois être le premier à le dire que je trouve que c'est pas une bonne donc il y a peut-être cette peur là d'être le premier
et se mettre ce frein pour 15 jours,
ce frein là on va dire le syndrome de l'imposteur, de peut-être je connais rien, il peut avoir ça. Puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes que pour garder une bonne relation avec tous les joueurs, pour s'assurer d'avoir l'entrevue quoi que ce soit, ils s'empêchent d'être critiques parce que ils se disent
ça, je peux comprendre.
Il vient d'arriver, je peux pas vraiment. Il a joué 5 matchs, je ne peux pas vraiment dire qu'il a été nul. Puis peut-être l'équipe mise sur lui au niveau marketing, puis ils font de la promotion parce qu'on vient de le recruter. Peut-être que si je dis qu'il n'est pas si bon que ça, et j'aurai pas d'entrevue avec lui, puis ma relation avec lui ne va pas être mauvaise. Ouais. Et quand le joueur y part, c'est là qu'on commence à parler du joueur, que ça a été une catastrophe. Et pour vous dire un truc, les gars, dans le cercle nous là, qui avons joué à l'Impact ou qui sont encore en contact avec
les ex,
je vous le garantis, tous les joueurs qui ont signé à l'Impact, je vous le dis que le taux de réussite était peut-être de 98%. Ça veut dire que quand on se parle entre nous, un joueur arrive, après 6 mois, on analyse, on dit non, les gars, c'est catastrophe, non, ça ne fait pas de sens.
Est-ce que tu peux nous inviter au groupe WhatsApp?
On va t'envoyer notre username, on n'est pas obligé de répondre.
Je vous le jure, c'est fou à quel point. Parce que, tu sais, je pense que c'est quand même assez facile de voir, de faire l'analyse rapidement des qualités du joueur. Si tu prends les salaires, les qualités, c'est assez facile de comprendre, OK, il ne fit pas avec le club.
Mais Reda, le problème, là, tu l'as dit tantôt, là, c'est extrêmement difficile d'être le premier à dire quelque chose. Ouais. Si tu dis quelque chose de négatif sur un joueur qui vient d'arriver, là, tu l'as vécu un petit peu, tu as dit quelque chose de négatif, tu te fais ramasser par les licornes, par les ghost followers qui vont dire que ça fait juste 2 matchs, ça fait juste 2 semaines, ça fait juste 2 mois. Deux ans plus tard, il est toujours pas bon. C'est extrêmement difficile. Est-ce que ça se peut que le manque de couverture fait en sorte que c'est toujours les mêmes... Tu sais, je veux dire, quand tu as le média officiel, par exemple, un TVA Sport a une certaine responsabilité envers la couverture de l'Impact de Montréal, et on peut comprendre certains angles d'histoire. Après, TVA Sport, c'est assez limité, là. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on est 10 de façon régulière qui couvre le club? Non. Et il y a une certaine rotation aussi. Donc, avoir une personne qui est assez forte pour dire ce qu'il pense vraiment, puis qui assume qu'il peut se tromper, que ce n'est pas grave, c'est ce qui fait en sorte que le club n'avance pas si bien que ça finalement.
Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Ça n'aide pas ni les supporters, ni les joueurs, ni le journalisme sportif en général. Parce que, tu sais, quand je regarde, par exemple, ce qui se fait aux États-Unis, au niveau du basket, au niveau du football américain, au niveau même du soccer, quand je regarde ce qui se passe en Europe, les journalistes, ils sont objectifs dans leur description. C'est sûr qu'il y en a qui ont un certain agenda. Ils n'aiment pas ce joueur-là. Il va toujours parler en mal de lui. Mais ce qui se passe sur le terrain, on le voit tous. Donc, je ne comprends pas pourquoi être... je ne vais pas dire optimiste parce qu'il faut être optimiste, mais ne pas être objectif, c'est ça mon problème. Moi, je regarde par exemple la NBA, je regarde ESPN, Fox Sports, ils vont parler des Lakers, qui est une des meilleures équipes, mais ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont perdu un match, ils vont expliquer que LeBron il n'a pas été présent ce soir-là. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, mais ce soir-là, il ne s'est pas présenté. Il n'y a rien de mal à dire ça. Il y a des matchs où Saint-Piet ne s'est pas présenté. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, je l'adore. Ça. Mais s'il y a un jour où il ne se présente pas, il faut être capable de le dire qu'il n'a pas été là aujourd'hui. Et c'est juste cette honnêteté, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, mais cette objectivité dans la couverture des matchs et dans les problèmes qui se passent. Et tout ça, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour faire avancer et pour élever le niveau d'exigence de tout le monde. Parce que si on est toujours là à dire « Non, c'est correct, on n'était pas si pire, on a perdu 4-1, mais c'était quand même assez bien, il y avait des points positifs », ça fait il n'y a personne qui progresse. Quand tu es joueur de soccer, quand tu es athlète professionnel, après chaque match que tu es marqué, que tu es gagné, tu ne peux pas t'empêcher de penser à qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer.
Ouais.
J'ai marqué un but, mais j'ai raté deux buts. J'aurais peut-être pu faire un meilleur appel. Tous les joueurs voient ça comme ça. Mais je ne comprends pas pourquoi, au niveau du journalisme, on n'est pas capable d'être objectif et d'expliquer que, OK, l'équipe est dans une situation extrêmement difficile à cause de la pandémie, les voyages, la quarantaine. Un joueur est parti, le gardien est parti. Mais n'empêche que ce n'est pas pour ça que l'équipe perd. L'équipe perd parce qu'il y a un problème au niveau de la préparation physique. Malgré les voyagements, je comprends ce côté-là, mais il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de la préparation physique. J'ai vu beaucoup d'erreurs de manque de concentration, des erreurs tactiques, etc. Il y a peut-être un problème au niveau de la préparation mentale. Quand je regarde l'équipe jouer, au début, je voyais une équipe qui est soudée. Les gars travaillent l'un pour l'autre. Mais dernièrement, ce n'est pas ça que je vois. Donc, au niveau de la cohésion d'équipe, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mieux fait pour que les joueurs soient un peu mieux soudés? Je ne sais pas.
Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que c'est des choses que, comme tu avais dit au début, Renard et Henry, en réalité de ce club, cet effectif, donc il faut qu'ils fassent le ménage et qu'ils survivent avec ce qu'ils ont. En plus, avec la pandémie et le budget restreint que clairement Olivier Renard a sous sa main, on sait clairement que 2020 s'est terminé en termes de recrutement. Il l'a officialisé avec Kiza, c'est le dernier joueur qui va arriver. Peut-être qu'il aura un échange à MLS, peut-être ou peut-être pas, mais à part ça, ou peut-être un départ. Donc, il reste encore du temps pour qu'un joueur quitte.
J'espère qu'il y en aura.
Ouais, il se peut, mais et tout ça.
J'aime comment vous vous parlez en code. Là.
Ouais. mais.
Ouais, j'espère il se peut.
Pour aller plus loin, on peut. Moi, j'ai aucun problème à vraiment parler concrètement et ouvertement de qu'est-ce que je vois comme départ, qu'est-ce qui peut-être pourrait faire du bien, parce que on n'a rien à cacher, ce qu'il y a sur le terrain, on le voit. Donc, si vous voulez qu'on parle de ça, on peut en parler.
On arrive. On va 1h45, là. On va faire
1h45. Non, madame ne sera pas contente.
Elle veut dormir dans sa chambre. Mais le truc, c'est que le concept qu'on avait inventé, il y a 2 ans, Nilton, 3 ans, la positive attitude de la pré-saison. Et ça, on le comprenait. On avait parlé à Nicolas Martino au CPP durant l'été, là, où on dit oui, il faut qu'on mousse un peu l'équipe, tout en restant un peu, serein. Là. Et Nicolas, il ne regarde pas de la merde. Là. Quand il voyait que Vargas, ça jouait bien en pré-saison, oui, il y a du hype. C'est ton travail aussi de overhyper un peu, tout en restant serein. Donc, je ne trouvais pas que TVA Sport avait trop abusé. Il y avait la folie Novilo, 10 buts de Vincent Détouche. Je trouve ça marrant. Je dis OK. C'est pas pour critiquer. Au moins, lui. Il lui dit, je l'ai dit, j'ai fait une erreur, je suis mis en caleçon, tout ça, il a fait le fait.
C'est cool,
Mais moi, je respecte. Moi, j'ai dit Omar Brownie 10 buts, là. Tu sais, j'ai aucun problème, mais tout le monde s'en fout de ce que je dis. Moi, je suis un gars avec des cheveux, là, beaucoup de chèques. Mais c'est, moi, les gens qui vont all-in, ils disent, OK, je l'ai dit, c'est une erreur, ou j'ai raison, voilà. Ça, il n'y a aucun problème. Et moi, ce qui dérange le plus, on se répète, mais on le dit, c'est les entre-deux, c'est le hyper-positivisme qui n'a aucun sens, mais qui est constant à chaque année, quel que soit les joueurs ou les entraîneurs. Mm-hmm. Mais on parle de quoi, là? Vous êtes vraiment sérieux, ça? Et puis, c'est le manque de perspective. Ça, c'est la chose qui me dérange le plus, en général, dans la vie de tous les jours, dans le travail, les relations, la famille, les amis, le manque de perspective et le manque de communication. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est un des mots les plus graves que je trouve qui gêne un peu cette couverture médiatique. Et aussi les fans. Hein. Moi, je mets les fans dans le même bateau. Il y a certains, encore une fois, je me bosse sur Twitter, qui est quoi, 1%, 2% de la réalité, là. Disons 5% si on est positif, si on est optimiste. Et ça, je trouve ça très gênant. Très gênant parce qu'on se base sur ça en termes de réaction, alors que ça représente peut-être très peu, une majorité silencieuse, qui est normale, la majorité est souvent silencieuse. Mais à un moment, genre, si les mêmes personnes ou le même groupe font les mesures à chaque fois, à un moment, si vous apprenez pas, on vous prend pas au sérieux. Moi, il y a des gens qui sont sur Twitter, des fans, je dis, qui sont très gentils. Je lis même pas, je dis, OK, moi, je sais où est-ce que tu vas. Tu vas jamais chez toi, mais tu es un être humain, tu as le droit à ton opinion. Ça, il n'y a aucun problème. Et ce qui est embêtant, c'est qu'après, on en sort des standards de journalistes, les standards de fans, le club d'être plus grand, l'institution. Vous parlez de quoi, là? Vous pouvez pas mélanger les pommes et les oranges, là. À un moment, il faut être conséquent avec ce que vous avez. Tu as un certain produit, que ce soit le club, ou le fan, ou les médias, tu vois, et tu reçois ce que tu mets. Et puis, c'est ce manque de perspective que je trouve qui est tellement flagrant et tellement gênant et tellement, pas rabaissant, mais qui freine. Il freine tout ça, puis qui fait que nous, quand on se parle, on a l'impression qu'on est des aliens, puis on dit des conneries, alors qu'on se dit, tu sais quoi, peut-être on n'est pas si fou que ça. Puis on ne détient pas la vérité. Hein. Moi, j'en ai dit des bêtises. J'en ai écrit des conneries. Mais le plus important, c'est tout le temps garder une perspective. Tu vas dans les deux extrêmes, c'est correct, mais il faut qu'à un moment, tu reviennes au milieu pour dire, OK, la vérité est autant entre les deux extrêmes, mais il faut tout le temps avoir une perspective et une certaine, comment dire, être humble. Et je trouve que, et en plus, excuse-moi, je parle trop longtemps, mais moi, ce que je remarque, là, que ce soit comment on consomme les médias, le contenu, que ce soit le match ou parler aux fans ou parler aux autres médias, c'est à travers des silos qui s'appellent les réseaux sociaux. Donc chacun est comme ça, là. OK, moi je suis là, donc...
Mais sincèrement, ça, les réseaux sociaux, pour ce qui est de l'impact de Montréal, ça représente pas mal ce qui se passe dans les médias traditionnels aussi. Là. C'est pas très, très, très loin. Là.
Oui, c'est vrai.
Parce que de toute façon, dans le média traditionnel, c'est assez surface. C'est, on n'a pas beaucoup le temps d'en parler beaucoup. Ça se passe essentiellement dans les médias sociaux. Et quand on voit un Olivier Renard qui, entre guillemets, attaque les fans, et il parle des médias sociaux, il parle exactement ce qui se dit dans les médias sociaux. Là.
Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé son interaction avec les médias. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais un feeling, avec les premières entrevues qu'il a fait, j'avais un bon feeling par rapport à sa façon de voir les choses. Ouais. Là, plus ça avance et plus ça confirme ce que je pensais de lui. Je suis vraiment content qu'on l'ait ici parce que des gens comme lui vont graduellement changer les choses, améliorer les choses, parce qu'il est dans le vrai. J'estime que c'est quelqu'un qui est dans le vrai et qui a une bonne perspective, et qui est droit et que ce qu'il dit, il le fait. Il est direct dans sa façon de faire.
Il a clairement une forte corrélation entre ce qu'il dit et entre ce qu'il fait. Mais les actions et entre les...
Mais je peux te faire l'avocat du diable 2 secondes?
On a pas ça, le portugais IMF.
Portugais. Ce qu'il fait, pour l'instant, c'est ce qui est le plus facile à faire. C'est le ménage. Tyler, on va libérer Camacho, probablement Fanny s'en sent le retraite. Et ça, c'est facile à faire. Là, ce qu'il faut juger, c'est est-ce que Bing, c'est un coup de chance ou c'est un recrutement
Thierry Henry?
Wanyama, le recrutement au début de Wanyama, c'est un peu bizarre d'aller chercher un deuxième 6. Ça poussait hors de position Samuel Piette. Là, c'est en train de se placer, mais ce n'est pas tout à fait là. Le rôle de Wanyama n'est pas tout à fait clair encore dans cette équipe-là. Et là, c'est les prochains moves là, qui vont compter. Là. C'est là qu'on va voir. Te tromper avec un joueur de 100 000 $, ce n'est pas bien grave.
Mais c'est une toile.
Mais les prochains, là, les prochains où qui vont être des DP, il ne faut pas que tu te trompes. Parce que quand tu te trompes, c'est fini. Là. T'en as pour, on le voit, là. La gagne à Rémigard s'est trompée et on paye encore aujourd'hui, un an plus tard.
Exactement. Là. Exactement, mais tu sais, je comprends un peu ta réaction, mais je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu cette qualité-là de directeur sportif.
Tout à fait.
C'est vraiment, je pense que c'est un directeur sportif qui sait ce qu'il fait, il a une idée claire, il veut amener certaines choses au club, et je pense que le club gagnerait beaucoup à le laisser travailler tranquillement. Et c'est ça, moi je suis vraiment optimiste par rapport à ce qu'il fait, parce que depuis le début, il n'y a rien qu'il a fait, et je me suis dit, mais c'est bizarre, peut-être tu disais ça, mais tu as fait ça. C'est homogène, c'est logique.
Exactement.
Ça fait du sens. Puis je dirais pas que c'est nécessairement facile, parce que ce qu'il a fait, il fallait le faire. Tu vois, c'est pas. Oui, c'est du ménage, mais par exemple, ce qu'il a fait aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'Impact. Quelqu'un dire j'en ai marre de toujours voir des excuses. Tu sais, j'aime bien le fait qu'il commence à prendre confiance et à être à l'aise avec dire vraiment ce qu'il pense. Et c'est, je pense, le sport, c'est comme ça que le sport doit être. Il doit avoir un niveau d'honnêteté entre le club et les sportifs, entre le club et les supporters et les joueurs, et entre les journalistes et les supporters. Il faut qu'il y ait un certain niveau d'intégrité, d'honnêteté dans ce qui se passe. Et mon tweet faisait référence principalement à ça, de toujours être optimiste, toujours dire oui, c'est pas grave, il reste 8 matchs, oui, c'est bon, oui, mais il y a des bons côtés, oui, mais il y a des bonnes choses. Oui, il faut être optimiste, évidemment, mais le sport de haut niveau, c'est pas ça, c'est pas juste dire oh, c'est correct, on est cool, il reste 8 matchs, on peut se reprendre, il y a eu des points positifs. Non, il faut attaquer ce qui ne va pas.
Ouais.
Mais pas pour critiquer ou pour rabaisser quelqu'un, non, c'est dans le but de s'améliorer. C'est la même chose que si j'étais dans un contexte où un journaliste me demande comment je peux améliorer mon travail, je lui fais une critique constructive. S'il l'accepte, tant mieux. S'il ne l'accepte pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas plus grave que ça. Mais c'est dans l'optique de s'améliorer. Ce n'est pas pour critiquer. Parce qu'il y a eu des gens qui m'ont envoyé des messages. Ah, mais il y a déjà des gens qui critiquent l'Impact. C'est assez de critiquer. Je dis non, mais mon but, l'idée derrière, ce n'est pas de critiquer. C'est d'être objectif. Ouais. S'il y a des choses à dire qui sont positives, on va les dire. S'il y a des choses qu'on doit dire qui sont négatives, on doit les dire, mais il faut avoir une objectivité dans notre façon d'analyser. Mais la vérité, je me rends compte que tu ne peux pas être objectif si tu ne peux pas être extrêmement objectif si tu n'as pas vraiment toutes les informations. Et oui, j'ai l'impression que des fois, basé sur les conversations que j'ai avec certaines personnes des médias, j'ai l'impression des fois qu'il leur manque des informations dans comment ça se passe réellement dans le sport. Parce qu'ils ont un point de vue. Ils ont un point de vue.
Mise en contexte.
Mais c'est vrai.
Comme tu as dit, c'est perspective. C'est un manque de perspective et mise en contexte. Et qui s'applique à plein de choses. Et là, on se dit. Mais en plus, c'est que si tu ne l'as pas, à la limite, ce n'est pas de ta faute. Tu ne connais pas. Même moi, il y a plein de choses que je ne connais pas, comment un club marche. Mais c'est ton attitude, comment tu passe ton message qui fait que, ok, toi tu connais tout, tu as raison, mais en plus tu connais rien, moi je ne sais plus quoi. C'est ça la contradiction, l'oxymore si vous voulez. Je trouve que c'est un peu embêtant pour moi.
Non, à 100%. Mais c'est une conversation, et c'est pas parce que j'ai joué au foot que je connais ou que. Non, mais c'est une conversation qui doit avoir lieu, et c'est de l'écoute, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est des critiques constructives qui doivent. Mmh. Prendre place pour que tout le monde puisse évoluer et avancer. Et je pense que l'équipe, les joueurs, les supporters, la culture foot gagnerait beaucoup à être beaucoup plus objectif dans ce qui se passe. Parce qu'on voit tous le même match. Et si quelqu'un me raconte que le match s'est bien passé, mais je vois que l'équipe perd 2-1, si quelqu'un me dit que c'était pas si pire que ça, mais je vois des trucs qu'à ce niveau-là ne devraient pas exister, ben, il y a une déconnexion qui commence à se créer. Puis ça a toujours été comme ça de toute façon. Essayons de changer un peu les choses pour évoluer, avancer tout simplement.
Ça fait question. Trader.
Oui, question. Safi Trader est le pur joueur du sort de l'Impact, oui ou oui?
Non, bien sûr que non. Non, non.
Depuis deux jours, j'ai l'impression que.
Non, Safi est un joueur qui a été. Qui a été correct. Je dirais que son apport à l'équipe a été correct.
Il n'était pas pire.
Mais si tu rentres en considération, au niveau sportif, ça a été correct. Mais si tu rentres en considération son statut, le salaire, etc., ça a été en bas de la moyenne. Parce que Piatti,
Mon point, ouais, sur Saphir, c'est que, en général, c'est que ça revient à ce que je disais avant par rapport à la mise au contexte et la perspective. Moi, je trouve que comment les gens ont accueilli Saphir, fans et médias, je pense qu'il y a eu beaucoup, je vais dire 95%, je vais être gentil, et je dis pas ça parce qu'il y a un singe, rien. Hein. Moi, c'est pas mon cousin, je vais parler deux fois en trois ans, c'est dommage qu'on n'a pas pu parler, prendre un café, juste parler off the record, juste pour chiller, j'ai même pas fait ça. J'ai même pas eu le courage ou la bravoure ou même la patience d'essayer de faire ça. C'est dommage, tant pis pour moi. Mais c'est que, avec Saphir, attends, c'est que, il y a déjà dès le début, il y avait une mauvaise compréhension.
Ah, c'est fou.
Moi, j'ai pas compris. Et j'ai écrit des articles dessus, j'en ai parlé au CANAFC et au CNB pour dire « Ok les gars, ce gars-là, c'est un numéro 8 relayeur qui aime tenter de monter vers le haut. » Le gars, puis en plus, il l'a dit à chaque année, il disait souvent « Moi, je me fous dans le collectif. Je ne veux pas monter une équipe à un niveau international. Je vais améliorer les gens autour de moi, puis essayer d'améliorer le collectif. » Mais ils se font dans le collectif.
Mais quand il est arrivé, n'oublie pas, il est venu remplacer qui?
Jemali.
Déjà, c'était un premier problème au niveau de la comparaison.
Voilà, et de la perception. Et c'est ça, ça revient au travail des médias. Il y a certains qui disaient n'importe quoi, et surtout, tout le monde peut croire à leur évangile. À la limite, correct, c'est ton job, les gens, t'as des fans, c'est parfait. C'est juste qu'il y avait une mauvaise analyse dès le début. C'est un 10, c'est milieu offensif, c'est un DP donc il doit marquer. C'est en amont. Et en statistiquement, là, le gars, il y a quoi, 22, 25 buts en 65 matchs pour un milieu de terrain qui est même pas offensif. Et mec, il faut le donner il faut les mettre.
Je suis d'accord.
Il faut
de chance de les mettre.
Oui, c'est vrai, mais je te garantis, c'est vrai, mais j'avoue que l'impact, mais au moins l'impact choisit bien leur tir de penalty. Mais c'est vrai, c'est des penalties. Il a quand même marqué des buts importants dans le jeu. C'est à toi, il met l'équipe sur
le. Mais moi, ce que je trouve drôle, des penalties, ce que je trouve drôle des penalties, là, tu sais, moi, je m'en fous encore plus que toi, Sofiane, là, de Saphir Tider. Mais ce que je trouve drôle, c'est quand on parle des buts de Tider, on parle des penalties. Bernier, il a fait des buts sur des penalties, mais on ne l'a jamais dit.
Exactement.
Mais à un moment donné, il faut avoir le même traitement, peu importe le joueur. Saphir Tider a eu le même problème que Blérim. Quand il est arrivé, ça y a pris trois matchs pour se dire, sais-tu quoi, ce collectif-là, ça ne fonctionne pas. Je pense que je vais jouer un autre rôle.
Voilà. C'est ça. Et en plus, c'est que la perception, je me dis, regarde, Tider a été brouillon dans des matchs où c'était catastrophique. Il fait ça à Bologne, il se fait envoyer avec les U23 pour un mois.
Ou à Montréal.
Voilà. Oh le salaud. Donc, est-ce qu'il y avait une régression de Saphir Tider dans sa carrière? Oui. Mais je vous garantis, quand on en parlait au début, quand on en parlait quand il avait des mauvaises passes, et maintenant quand il quitte tout le monde se lâche, j'ai l'impression que c'est une sous-merde, alors que c'est totalement faux. Et je vous
garantis, il n'a pas été catastrophique. Moins pire de. Il a été correct, je trouve. Il a pas été.
Je te garantis, il se trouve à KC ou à l'AFC, il est dans la liste top 10 MVP milieu relayeur de la ligue. Mais MLS Soccer, à chaque semaine, il parle de lui. Parce que c'est une question de perspective par rapport au club et la qualité. Et moi, je le savais que Tider n'allait jamais ramener ton club à un niveau comme Valérie l'a fait. Parce que ce n'est pas son style. Il peut le faire sur plusieurs matchs, mais sur 34 matchs. Pendant trois saisons, comme Piatti.
Il a sauvé le club plusieurs fois l'année passée.
Plusieurs fois.
Et je sais, Nathan, je le sais.
Mais moi, c'est ce qui m'énerve. On est tous d'accord pour dire que ce n'était pas le meilleur joueur pour l'Impact de Montréal. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est les 48 dernières heures où, collectivement, on a décidé
de dire qu'il est nul.
Que c'était un bon départ. Ouais. C'est pas si clair que ça que c'est un bon départ.
Et pour dire un mot de perspective, j'ai un gars qui a dû être critiqué, que j'avais douté de ses qualités dès son deuxième match, le DP Bernardello. Le gars, son expérience en Espagne était louable. Quand je l'ai vu jouer en Espagne, j'ai vu derrière, j'ai dit, milieu défensif, il n'est pas mauvais. Mais quand il venait à Montréal, c'était catastrophique. Je pense qu'une combinaison qui était cuite, slash le club était juste pas assez bon et pour que lui soit l'élément sur son épaule.
Pour répondre à ta question, on
a parlé de lui comme si c'était un héros, alors que ce gars, par rapport à Tider, c'est-à-dire il en a deux dans la poche. Et c'est ça que je comprends, c'est le manque de perspective et le manque de. J'ai l'impression, mais au Paiki, là, le gars qui est venu à 26 ans à MLS, l'international algérien qui a joué contre Schweinsteiger en 8e de finale de Coupe du Monde, mais vous pouvez pas être qui là?
Mais,
oui, il a régressé, mais il est quand même, il va ailleurs à MLS, c'est MVP.
Je suis d'accord avec toi.
En termes de perspective.
Le constat que je fais de lui, évidemment, ça a été un joueur qui a été correct pour l'Impact. Ça n'a pas été un échec, ça n'a pas été un succès non plus. Donc, ça a été correct. Je n'ai pas, j'ai pas de, de, je ne le vois pas négativement son arrivée à Montréal, parce qu'il y a eu des choses qui... Il a amené certaines choses, mais pour aller plus dans le côté technique, ce n'est pas question qu'il est bien ou il n'est pas bon. C'est où est-ce qu'il se situe dans l'équipe et avec quelle équipe il joue.
Oui,
et
ça, c'est quelque chose qui a manqué. Son impact sur le jeu a été décevant. L'influence.
Mais c'est même pas non plus l'impact qu'il a eu sur le jeu, c'est plutôt avec qui est-ce qu'il a autour de lui. Il y a beaucoup, les gens, quand ils évaluent un joueur, ils évaluent un joueur comme une personne. Mais tu peux pas faire ça. Il y a des joueurs qui sont moins bons sur le papier que Taider, mais qui fitteraient encore plus avec l'impact
Exactement.
De Morales. Et dans le passé, le recrutement était fait par rapport aux joueurs. On voit une vidéo YouTube, il est bon, on l'amène. Oui. C'est pas Boyan. Comme ça que ça marche le soccer.
Boyan,
c'est un autre exemple. Boyan, c'est pas un joueur qui va être le leader de ton équipe. C'est un joueur qui est bon quand il y a des bons joueurs autour de lui.
Exactement.
Boyan, personnellement, je peux pas miser sur le fait que Boyan va vraiment faire quelque chose de grand à l'impact de Montréal, parce que il est pas entouré avec les joueurs qui vont le mettre en valeur. Et c'est pas quelqu'un qui va prendre l'initiative comme un Piatti. Piatti, des joueurs comme lui, ils sont extrêmement rares. Un joueur qui prend le ballon, il fait la différence à lui tout seul. Il y en a pas beaucoup, des joueurs comme ça dans le marché. Il y en a, des Jovinko, des gars comme ça, il y en a. Mais Boyan, c'est un gars qui a besoin des gens autour de lui. Puis pour trouver ces gens-là, il faut bâtir une équipe autour de ces joueurs-là.
Et moi, je pensais que Taider, avec Rémi Garde, je pensais qu'il voulait bâtir avec lui. Parce que moi, je pensais que Garde allait faire un jeu collectif, mais Garde s'est trompé totalement.
Mais à la base, quand tu vois Taider, tu n'as pas besoin de le voir jouer, tu sais que c'est ce type de joueur-là. Puis quand on évalue le joueur, il y a un autre truc, moi, que j'aime bien observer, à part le côté terrain, c'est la personnalité. Puis ça se voit à travers des entrevues, à travers sa manière de se comporter sur le terrain. Puis ça aussi, je pense, j'en ai parlé avec pas mal de journalistes, que je pense que dans le futur du foot, dans le processus de recrutement, non seulement on va regarder la vidéo du joueur, on va analyser ses compétences, ses qualités, mais on va analyser aussi on va probablement leur faire passer des tests psychométriques.
Ouais.
Quand tu vas travailler dans une compagnie, on te fait passer un test psychométrique pour voir ton niveau de jusqu'où tu peux aller dans cette compagnie-là. Et je comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des équipes qui le font, mais j'aimerais bien voir que dans le processus de recrutement, à l'impact, on puisse inclure un test psychométrique, mais pas pour voir ce qu'il fait avec.
Non, t'as raison. Je suis d'accord. Sur le débat Taider qu'on a en ce moment, là, la discussion, ça rejoint ce qu'on a dit avant sur la perspective médiatique, sur ça, parce que.
Le fit entre les joueurs, c'est ça qui est extrêmement important. Quel joueur, c'est est-ce qu'il fit avec les joueurs qui sont déjà là.
Mais tu vois, l'impact de Montréal, là, la personnalité de ce club-là est encore en construction totale. Je suis incapable de dire. Quelle est la personnalité de cette équipe-là? Là, je regarde les joueurs en place, en imaginant ceux qui partent. Tu sais, la personnalité, elle va se bâtir autour de quel joueur? Tu sais, avant, c'était clair. Là. Avant, on avait du Bush, on avait Piatti. Tu sais, on pouvait le voir. Là, c'est autour de quoi qu'on va bâtir? Est-ce que c'est autour de Piatti? Est-ce que c'est Wanyama, la personnalité forte? Tu sais, finalement, la vraie seule grosse personnalité forte, c'est le coach. Va falloir trouver
un recrutement.
Exactement.
Ça passe par le recrutement. Tu sais, tout à l'heure, je regardais un peu dans l'historique de Toronto et je pense que l'impact au jour d'aujourd'hui est ce que Toronto était en 2014. Toronto, ça a été une équipe quand même, hein, ils ont expérimenté tellement de choses. Il y a eu des
Hollandais. Toronto s'est bâti une équipe de salauds. Ils se sont bâti une équipe. Exact.
Puis qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Ils ont recruté, tu sais, dans les années précédentes, ils ont amené toutes sortes de types d'entraîneurs, types de joueurs. Puis là, en 2014, ils ont engagé Greg Vanney. Qu'ils ont bâti sur le long terme. Ils l'ont laissé faire son travail. Ils ne se sont pas trompés, évidemment, sur lui. Là, après ça, on a commencé à avoir une progression jusqu'à temps qu'il gagne, qu'il gagne la MLS Cup. Et je pense que l'impact, au jour d'aujourd'hui, est où est-ce que Toronto était en 2014. Ça veut dire qu'avec le recrutement d'Olivier Renard, Gilmore, évidemment, puis Thierry Henry, c'est un nouvel ère qui est concret, qui est vrai, que je pense, sur le long terme, va apporter des résultats. Mais maintenant, ce qui manque, c'est juste de se débarrasser du cycle précédent.
Ouais.
Parce qu'il y a encore des joueurs qui sont sous contrat, qui viennent de l'ère de Rémi Garde et même d'avant Rémi Garde. Donc là, maintenant, ça va prendre peut-être 2 ans. Là, on a fait la première année. Et avec les obligations, les contrats, etc., j'espère qu'on va pouvoir se libérer de certains joueurs cette année pour que l'année prochaine, on commence avec vraiment une vision que Renard a et que Thierry Henry a pour la suite des choses. Mais,
mais je trouve important de remettre les pendules à l'heure quand même. Là. Je ne veux pas juste parler de Tider, je reviens sur lui parce que c'est important de. En fait, c'est important de dire la chose la plus proche de la vérité absolue. Parce que quand je dis que je ne comprends pas le traitement vers Tider, je comprends sur certains points, mais c'est plus le côté extrême, genre, OK, il y a une majorité qui s'exprime sur un côté extrême qui, je trouve qu'ils ont totalement tort. Mm-hmm. Et j'ai dit la même chose sur le départ de Silva. On a l'impression que c'était une sous-merde, alors que j'ai jamais compris. Et d'autres départs, quand on se dit, ben, tant bon débarras, mais il y a des gens qui disent non, il ne fallait pas qu'ils partent. OK, à la limite, chacun son opinion. Mais c'est juste qu'il y a des stats qui parlent. Pour Tider, pour Silva aussi. Mais il y a aussi, comme on avait dit, une mise en contexte par rapport au rôle du joueur avec qui il joue. C'est, par exemple, quand il joue à Bologne, il y avait un rôle très différent, milieu relayeur pur et dur. Il joue avec des joueurs beaucoup plus tendus que l'Impact a eu dans l'histoire de l'Impact, incluant Drogba, ça c'est clair. Quand on joue avec l'équipe nationale, quand tu as Mahrez, Feghouli, Slimani, roule à ma gauche avec toi, tu as un rôle très différent. Moins de responsabilité, t'as un rôle très spécifique, mais la pression beaucoup plus haute. Quand tu fais des erreurs, ça explose. C'est en équipe nationale. Donc, on voit que la loupe est sur toi, puis tu fais pas d'erreur. Donc, le joueur a des rôles différents là où il est, sélection ou club. Puis, il y a des joueurs qui sont les mêmes, que ce soit en sélection ou en club, parce que c'est des leaders, c'est leur rôle. Moi, je suis attaquant, je marque 15 buts en sélection, je marque 15 buts en club, c'est mon rôle. Ça, on espère que beaucoup de joueurs sont comme ça, mais souvent la réalité c'est que ton latéral droit c'est peut-être un milieu droit en club, donc c'est la réalité entre club et sélection. Et je trouve que moi je trouve c'est important, et c'est pourquoi ton tweet il y a quelques jours, de reprendre le narrative entre guillemets et dire non, ça c'est faux, c'est pas totalement vrai. Arrêtez des conneries par rapport à Tider, par rapport à Silva, par rapport à je sais pas qui. Soyez beaucoup plus, peut-être pas objectif, mais beaucoup plus balancé ou équilibré, si vous voulez. Soit plus équilibré dans ce que vous dites, parce qu'à un moment donné, c'est comme l'enfant qui a crié loup trop de fois. Moi, je t'écoute plus. On vous écoute plus, on vous dit plus. C'est plus intéressant, parce qu'on sait jamais où est-ce que les gens sont. Et je trouve que ça a confirmé sur beaucoup de personnes que je suis, fans, médias et autres observateurs autour de l'impact, c'est que après l'incident, après ce qui arrive avec Silva et d'autres joueurs, et la positive attitude, et je vois les réactions autour de Tider, OK, bon, vous avez confirmé ce que je pensais déjà, c'est confirmé. Et je trouve ça, c'est grave parce que ça enlève beaucoup. Tu sais, par exemple, on n'a pas eu Mali. Mali, on savait que ce n'est pas un numéro 8. Le gars, depuis 4 ans, il est comme numéro 10 avec la Suisse, puis avec Bologne, il joue comme deuxième attaquant quasiment. Lui, c'est un box-to-box, mais il fait ce qu'il veut. C'est lui, juste là pour courir et frapper. Et je vois pas. C'est écrit, on le dit, toute la planète le dit. Il y a Internet là, mais allez regarder. C'est pas compliqué. Allez voir des matchs, allez voir des highlights YouTube, vous allez voir où ce que la personne joue. C'est ça, je me dis, OK, il y a un problème, il y a une grosse déconnexion de la réalité, avec la réalité, parce que ça me dérange.
Pour X, Y raison, mais c'est pour X, Y raison, c'est sûr qu'il y a une déconnexion, mais c'est peut-être là où vous, par exemple, vous avez une plateforme qui est intéressante et vous êtes important dans le foot québécois, c'est là où vous pouvez peut-être prendre l'initiative de parler de ces choses-là. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être le premier, il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Si vous avez confiance en ce que vous... Et je pense que vous le faites, évidemment. Mais je pense sincèrement que c'est une culture qui doit changer tranquillement parce que je trouve que ça ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Il faut être honnête. Quand je vois... quand je regarde ESPN, Fox Sports ou des chaînes comme ça, on dirait que je me dis, mais c'est simple, c'est exactement ça, il faut être objectif. Peu importe le statut du joueur, peu importe le statut de l'équipe, ce qui s'est passé dans ce match-là, c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Ouais. Mais s'il peut avoir un mauvais match, puis s'il n'y a rien de mal à dire, ce match-là, il s'est pas présenté. Mais il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense et d'être objectif, surtout pas avoir un côté émotionnel quoi, là-dedans.
Il y a un truc qui manque aussi, il y a aussi le syndrome on oublie qu'il y a une autre équipe en face quand on parle du match. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Il faut même pour le Canadien, hockey, je dis, c'est pas des plots devant, hein. C'est aussi, ils ont des émotions, eux aussi ils jouent. Ah ouais, mais il a perdu le ballon. Pourquoi il a perdu ce que l'autre a mis le pied? Parce que l'autre, il a fait ça, mais vous pensez que c'est des plots, c'est des cons oranges, puis allez jouer les gars, nous on fait rien. Et ça, le truc, on oublie qu'il y a une équipe en face, puis il faut prendre ça en compte. Et ça fait partie de l'analyse du match, que ce soit fan ou média, il faut voir ce qui se fait devant toi. sais, genre le but de Philadelphie, là où Camacho joue le hors-jeu. Ouais, Camacho, peut-être il a fait une erreur, mais Philadelphie, le but, il laisse marquer 9 fois sur 10, même si c'était parfait. Tu sais, il y a un moment, tu te dis, tu peux rien faire. Ce qui t'est arrivé est arrivé. Donc, je trouve que ça revient tout le temps à mon vieux, ça manque de perspective, ça manque de vue au niveau. Et ça, je trouve ça très, très difficile. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nilton, mais moi, ça me dérange beaucoup. Et ce débat qu'on a là, on les a entre nous, on les a entre d'autres gars webis comme nous, mais je ne pense pas que des mainstream, ils vendront nous parler là pour qu'on se fasse des débats comme ça. Jamais de la vie, parce qu'on a des débats parallèles. C'est ça le problème. Les fans, ils nous parlent à nous, d'autres, ils parlent à travers les fans. Je ne sais pas trop ce qu'ils font là, mais je pense que tout le monde a des débats parallèles, puis on ne se croise jamais. Donc,
moi, ce que j'aimerais savoir là, pour finir le podcast,
Reda,
c'est si tu étais directeur technique, là, en gros, ça serait quoi tes chantiers là, vers quoi, qu'est-ce que l'Impact doit faire à court terme là? Et vers quoi l'Impact doit se tourner là, concrètement, pas nécessairement des noms, parce que les noms, mais des profils de joueurs pour que ce que tu vois jusqu'à maintenant avec Thierry Henry puisse fonctionner.
En termes de poste, quel poste je... Mm-hmm.
Est-ce que Tider, il vient moins cher, tu le prends? Tider est à moitié du prix, tu le prends.
Défenseur central, parce que l'année prochaine, je ne sais pas si Rod va continuer. Camacho peut pas être partant pour moi. Ça, c'est si j'avais les clés de l'équipe. Donc, un excellent défenseur central. Louis Binks, je pense qu'il va pas rester très longtemps. Donc, peut-être même deux arrières centraux. Zachary, j'aime beaucoup à droite. À gauche, Corrales, je le vois plus comme un second plutôt comme un partant. Un attaquant, évidemment. Un vrai attaquant. Parce que,
Reda, une question. Un attaquant buteur ou un attaquant...
Arrête. Alors, on vient de perdre 30 secondes. Arrête.
C'est important. Qui marque ou qui marque?
Évidemment, un attaquant, tout simplement. Je miserais sur un joueur désigné parce qu'à ce poste-là, c'est extrêmement important d'avoir un joueur qui fait la différence. Ouais. Donc, pour avoir ça, il va falloir peut-être se débarrasser d'un autre attaquant qu'on a déjà. Puis il manque quand je vois l'équipe essayer de créer des occasions, je trouve qu'il manque beaucoup 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 de créativité. Victor Wanyama et Sam, ils ont des qualités défensives qui sont au-dessus de la moyenne, ils aident beaucoup l'équipe à ce niveau-là, mais il faut un peu de créativité. Puis une équipe qui n'a pas de créativité, c'est une équipe qui court derrière rien du tout. Kyoto, j'aime beaucoup Kyoto, ce qu'il fait depuis le début là, mais il faut un peu plus d'options puis de variété dans le jeu. Balou, j'aimerais beaucoup le voir jouer un peu plus. C'est sûr qu'il a été blessé, ça a été une année compliquée pour lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, je dirais peut-être deux défenseurs centraux.
Est-ce que tu miserais sur un milieu offensif? Tu miserais sur un milieu offensif style 10 ou tu irais juste plus avec des ailiers qui sont performants, plus avec ton attaquant de pointe d'autre qualité?
Ça va dépendre des profils ça va dépendre de l'attaquant qui va être là, parce que si l'attaquant c'est quelqu'un qui, ça va dépendre de son profil pour baser l'autre recrutement. Kiza, on l'a pas encore vu, je sais pas c'est quoi son vrai niveau. Il va falloir qu'on le voit, mais on va dire, je sais pas. Deux arrières centraux, un arrière gauche si Corrales part, un arrière gauche qui va être partant, un 10 ou un ailier et un attaquant. Je pense.
C'est beaucoup d'argent.
Il y a des joueurs. c'est beaucoup d'argent parce qu'il y a deux joueurs qu'on peut libérer. Il y a deux joueurs, je pense, que j'ai en tête, tant Boyan et Ruti, qui t'en pourra faire justement ces transactions-là. Parce que sur le long terme, personnellement, je ne les vois pas vraiment apporter grand-chose à l'équipe, basé sur les standards que je vais me mettre pour l'équipe.
Tu sais, tout ce que tu as dit, là, c'est ce genre de profil-là, en MLS, ça va être compliqué à aller l'obtenir. Est-ce qu'on est capable, dans le contexte actuel, est-ce que un Européen ou un Sud-Américain serait intéressé de venir en MLS dans des conditions un peu compliquées, là? Ou c'est peut-être plus facile pour un Sud-Américain, un jeune qui veut lancer sa carrière comme un...
Même un Européen, parce que il y a une chose. Vas-y.
Mais admettons là. Aller chercher un DP qui va finir là, les actions devant, là, c'est compliqué pour un Européen dans la mesure où il faut le payer et que le stade est vide. Et tu contactes Giroud va vouloir venir, c'est sûr. Mais Giroud ne voudra pas venir pour 1 million. Puis nous, 5 millions, on n'est pas capable de payer ça.
mais je pense qu'on peut trouver énormément, ben énormément c'est relatif, mais pas mal de joueurs en Europe qui peuvent accepter 1,2 million puis faire le travail nécessaire comme, comme attaquant. Il y en a des joueurs dans le marché qui peuvent fournir au Portugal, en Espagne, en France, il y en a des
joueurs. Mais oublie pas ce que Léon, il ne vise plus, lui sa philosophie c'est pas d'aller chercher des joueurs en carrière. Donc aller chercher un Européen à 1,5 million, 2 millions, ça devient, c'est compliqué un peu parce que eux autres, ces joueurs-là sont encore dans leur début de carrière. Quitter l'Europe, c'est un aveu d'échec. C'est beaucoup plus facile de faire ça avec les Sud-Américains.
Si tu me parles des joueurs qui jouent pour Manchester, pour les, mais si tu me joues pour des joueurs qui sont dans le, qui jouent pour les équipes qui sont en,
genre Camacho,
dans le haut du. Si tu me parles de joueurs qui jouent dans le haut du tableau, c'est sûr que non, ils ont des ambitions pour aller au Real ou au Barça, mais c'est des équipes en France qui jouent pour des équipes en milieu de tableau. Il y en a là, des exemples en Liga, il y en a, en Portugal aussi. Il y a pas mal de joueurs qui sont, qui à 1,2, 1,5 million, ça serait ben, ils vont avoir un peu plus d'argent que ce qu'ils ont en Europe et aussi avec un projet de jeu intéressant. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'attaquants qui voudraient venir jouer pour Thierry Henry. C'est quand même une légende.
Ça, c'est fou. Et ça, on l'oublie. Hein. C'est hyper important.
Ah oui.
Attirer un attaquant européen pour qu'il puisse venir jouer pour Thierry Henry, qui est probablement une de ses idoles, ben, oui, il y en a beaucoup.
Bref, il faut aller chercher le prochain Bradley Wright Phillips qui est arrivé d'une équipe de championship et qui a tout cassé en MLS.
Exactement.
Exactement.
Exactement. Puis il y a eu plein d'exemples en MLS de joueurs qui ont fait ce travail-là. Il y en a des joueurs, il y a des équipes qui ont été capables d'aller chercher joueurs intéressants. Joseph Martinez, il y a eu des joueurs qui ont impacté le championnat, mais ce que j'aime bien, c'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec Oliver Renard, avec Thierry Henry, avec ce qu'il y a en place, et les choses sont en train de bien se faire pour que quand ce joueur-là vienne, les conditions soient bien pour qu'il puisse être bien, que ce soit sur le terrain et à l'extérieur du terrain aussi.
Surtout, ils sont en synergie. Enfin, ils sont là ensemble en même temps. C'est pas le gars qui est venu après le directeur ou David Nick après Dakar ou Sam Bordel et Franck, c'est le directeur technique numéro 1. Tu sais, ils sont tous, je connais mon rôle, on arrive en même temps, puis on va travailler ensemble pour recruter et faire une équipe. Ça c'est
hyper important. Des joueurs offensifs, il y en a énormément en Europe
ou
en Amérique du Nord. Puis leur dire que t'as Thierry Henry comme entraîneur et avec comment Olivier Renard a l'air de s'exprimer avec les joueurs qu'il va recruter, c'est sûr que ça va. Il y a de quoi faire. Il y a énormément de choses parce que quand tu vois ce qu'on a présentement avec, je le dis, ces deux joueurs-là, Boyan et Urruti, avec l'argent qui est payé, le niveau de performance, non, ça le fait pas pour les ambitions que le club devrait avoir. Ça le fait largement pas. Oui, il y a eu deux matchs où il a été performant, Boyan, mais non, t'es pas venu pour faire deux matchs. Je comprends les difficultés, je comprends la pandémie, mais
on est tellement blasé que même au Routier, on n'en parle plus. On se dit, et moi, je me sens mal pour lui parce que dans un autre club qui a un rôle spécifique, il serait beaucoup plus performant, mais avec l'impact,
moi, je me sens pas mal. Moi, je me sens pas mal parce que
l'impact est dans la transaction. Je me sens mal pour lui après les années. Là. Tu sais, au début, on se disait, mais là, cette année, genre, c'est bon, le pauvre gars, man, tu sais, il fait son cash. Non, il fait son cash. Non.
Arrête, il va t'envoyer un tweet après l'émission. Bon,
non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à force d'en parler, ok, c'est bon, j'ai tout dit ce que j'ai à dire, je me répète à chaque fois, c'est bon, je le laisse tranquille. Ouais. J'ai rien d'autre à ajouter. Tu sais, j'ai rien d'autre à ajouter.
Le gars, on a tout dit. Puis un autre truc aussi que j'aimerais voir dans les prochains recrutements, j'ai rarement vu ça dans les recrutements des années précédentes, mais Binks par exemple, c'en est un. Mais des joueurs qui viennent et qui ont faim, qui ont faim de prouver, qui ont faim parce qu'ils ont de l'ambition et qui veulent aller plus haut, ils veulent prouver, ils ont, comment on dit, une chip sur leur épaule, on the shoulder. Et des joueurs comme ça, j'aimerais voir des joueurs comme ça.
Moi, je suis d'accord.
Pas quelqu'un qui vient ici faire la star. Non, je veux des joueurs qui ont un certain état d'esprit qui va, cet état d'esprit-là va affecter les autres joueurs et va leur montrer, OK, c'est ça l'état d'esprit qu'il faut que j'aie.
Ce que j'aimerais voir, c'est des joueurs qui arrivent avec de la réussite. Ça aussi, je commence cette année de voir des joueurs qui s'en viennent ici parce que ça n'a pas fonctionné ailleurs. Quelqu'un qui arrive déjà en mode réussite. Divayo, c'était ça. Là. Quand il est arrivé en MLS, ça fonctionnait son affaire. T'sais. Puis ça arrive, ça fonctionne. Amener un gars comme Boyan où ça fait plusieurs échecs, À un moment donné, la séquence, là, on va juste être la prochaine séquence de mauvais échecs.
Exactement. Comme Novillo, la même chose. Bojan Novillo, c'est la même chose. C'est la même histoire qui s'est passée. On voit un track record de pas beaucoup de succès, des blessures, des pas beaucoup de temps de jeu. Mais quand il vient ici, on s'attend à ce que ce soit comment. Tu sais, le passé prédit un peu le futur dans le sport, tu vois.
Donc, la comparaison Bojan Novillo, c'est que Bojan, son potentiel est beaucoup plus intéressant, mais il est pour les deux joueurs. Ils ont fait la même erreur en donnant des salaires faramineux qui n'étaient pas proportionnels par rapport à ce qu'ils avaient montré juste avant. Et c'est ça Exactement. Le problème. Bojan, je suis prêt à prendre un risque, mais mec, tu donnes 600 000. Donne le salaire de Camacho à la limite, là, avec du terme et du gamme, mais n'en fais pas comme si c'était une star, l'argent. Les gars, il y avait des problèmes d'anxiété, des problèmes de blessures. On sait que le talent est là. Enfin, ça frappe, là. C'est une frappe niveau Ligue des Champions, là, quand il frappe. C'est niveau international. C'est le risque.
Une autre chose pour finir par rapport à la question que tu m'avais demandé si j'avais été directeur sportif et j'avais réglé. Un autre truc que j'aimerais faire, c'est d'avoir un peu plus de joueurs locaux de qualité. Puis il y en a, puis il y a des joueurs que je vois qui sont en CPL, puis j'estime qu'ils ont largement le niveau parce qu'ils sont. Je peux. Un, Mastakacher, James Jeffrey, ça c'est deux joueurs que je ne sais pas pourquoi l'impact.
Est-ce qu'ils ont refusé? Mais ces gars-là sont prêts à signer à Montréal n'importe quand?
Quand je vois un gars comme Waterman et je me dis, je connais James Jeffrey, je connais sa qualité, puis je sais ce qu'il a fait avec l'équipe nationale, puis je me suis dit que l'impact a laissé passer James pour lui. Et Mastakacher, la même chose, tu sais, c'est un gars qui a énormément de potentiel, qui a prouvé à chaque fois où il a été passé.
Il
va avoir le feu.
Mais Reda, ça revient à ce qu'on a dit au début.
C'était notre époque.
Non, il n'y a pas juste. C'est le snobisme local. Ouais. Je veux dire, quand le coach. Où le directeur technique a une certaine attitude hautaine devant le journaliste, il va l'avoir cette attitude hautaine devant le joueur, devant l'agent. Tu sais, il va dire, oh, oui, tu me le présentes parce que c'est le gars de la cour arrière. On a cette attitude-là un petit peu. Dire, non, forcément, si c'est local, c'est pas bon.
Mais à la limite, avec Henri et Renard, ils sont très requins dans leur attitude. Nous, on est là, genre, qui peut m'aider pour gagner? Au moins, on le voit. Eux, ils sont genre, et moi, je veux gagner. Toi, tu m'aides, tu viens. Toi, tu m'aides pas, tu dégages. Donc, au moins, ils ont cette attitude-là. Et ce qui est marrant, c'est que ce serait tellement ironique que l'Impact paye, même si c'est 10 000 $ à des clubs CPL, pour ramener des joueurs qui sont formés pour des centaines de millions de dollars. Des centaines de milliers de dollars. Ouais. Moi, je trouve ça tellement hilarant que ça arrive. Tu sais, genre, entre que ce soit même s'ils ont joué un an avec l'Académie puis un an avec FC Montréal, c'est beaucoup d'argent investi dans un joueur. C'est ironique que l'Impact va payer 1 $ pour des joueurs qu'ils ont formés pendant des années.
Ils ont formé, ouais. Puis sincèrement, il y en a, moi, comme je vous dis, il y en a trois que j'aime beaucoup qui sont en CPL. Mastakacher, évidemment. Mais il y en a plus. James Jeffrey,
Farsi, Dia, Farsi Dia,
Abdoulaye. Si je parle Diadine Abzi, arrière gauche, ça a été le meilleur arrière gauche de la ligue. J'aimerais bien le voir à gauche à l'Impact. Reggie, qui était à l'Impact, qui est que maintenant, il est en train de bien faire ses choses en CPL. Farsi, évidemment. Il y a des joueurs qui sont extrêmement intéressants, qui ne coûtent pas cher. Puis je préfère avoir un Dia à gauche que Corrales. Je préfère avoir un James Jeffrey que Waterman. Il y en a des joueurs qui sont intéressants et qui vont avoir justement cette envie-là de prouver parce qu'ils ont joué pour le club de leur ville et ils ont faim. Et quand tu regardes, et surtout quand tu regardes leur track record des années précédentes, ils ont prouvé. Mata a prouvé, James a prouvé avec l'équipe nationale. Oui. Puis Diop, il est en train de présentement prouver que c'est un joueur de qualité. Puis c'est pas des joueurs qui vont venir pour juste rester assis. Puis oui, j'aime la ville de Montréal. Non, c'est des gars qui connaissent la ville et ils ont quelque chose à prouver pour aller plus loin, puis c'est des joueurs qui sont ambitieux, donc ça aussi, ce serait quelque chose sur laquelle je miserais un peu plus.
Bon, ben, je pense qu'on a eu un excellent épisode. Hein. Dommage, on n'a pas pu sauver la carte de Taïda à l'Impact. Dommage. Le mauvais joueur, le mouton noir du bleu-blanc-noir. Non, mais juste en blaguant. Bon, bref, regarde, merci tout le monde qui nous a écouté, les Patreons, dans cet épisode spécial Patreon. Merci beaucoup. Reda, on te remercie pour ta patience avec nous. Ton tweet a été révélateur. Beaucoup. On a eu un débat. Merci, Nilton.
Merci à vous pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Et puis, N'oubliez pas, comme d'habitude, merci à tous nos Patreons qui nous supportent en ce moment. Et si vous voulez nous supporter, c'est pas compliqué. patreon.com/football club. Reda, dis-nous où est-ce qu'on peut te suivre. Parlons de ton podcast rapidement pour dire où est-ce que les gens peuvent écouter ton podcast avec Ali Gerba. Vas-y, mon gars.
Sur Twitter ou Instagram, Reda Gouram, c'est facile à me trouver. Puis le podcast, ça s'appelle Dans le vestiaire. On a eu pas mal d'invités intéressants. Puis là, avec la COVID, ça complique un peu les choses pour avoir de nouveaux épisodes. Mais dans les deux prochaines semaines, on a deux épisodes à sortir avec deux invités intéressants. On a eu des conversations très intéressantes avec eux. Et donc, n'hésitez pas. Et aussi, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions d'invités, on est à l'écoute pour ça aussi.
Ça fait plaisir. Reda, je voilà. Le vaccin arrive dans 3 mois. On arrive à votre podcast sans problème. Le CCPP avec le vestiaire.
Mais il faut avoir coupé les cheveux.
Ce week-end, ce week-end, je coupe et le vaccin il va sortir juste avant les élections américaines. Puis j'arrive en décembre.
Sofiane, hashtag du Célorier.
Merci beaucoup.
Ciao, allez, ciao.
Ciao tout le monde.